Radio Okapi. Grande interview.
Le président de la République appelle tout citoyen à changer de mentalité pour un Congo meilleur. Dans un message à la nation diffusé dimanche dernier à la RTNC, Félix Tshisekedi demande aux Congolais d'adopter un changement face aux nombreux défis que traverse la RDC. Ce message du chef de l'État intervient au lendemain de l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale et à la veille de l'entrée en fonction de l'équipe gouvernementale. Pour en parler, grande interview reçoit dans ce numéro M. Roger Lumbala, président du parti politique RCDN, Rassemblement des Congolais démocrates et nationalistes, membre du Front commun pour le Congo. Produite avec le concours de Kevin Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est préparée et présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti! Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro le président du RCDN, Roger Lumbala. Avec lui, nous revenons sur les messages du chef de l'État ainsi que sur le programme du gouvernement. Monsieur Roger Lumbala, bonjour.
Bonjour.
Avant toute analyse, parlons un peu de vous. Depuis les dernières élections, nous assistons à plusieurs mutations au sein de la classe politique. Quelle est votre appartenance politique actuelle ?
Comme vous le savez, vous l'avez déjà dit, je fais partie du FCC dans le regroupement électoral APECO, dont l'autorité morale est M. Bruno Tshibala-Ntsenze, le ministre sortant.
Est-ce que vous avez des députés à l'Assemblée nationale ?
Nous avons 4 députés nationaux à l'Assemblée nationale.
Portrait.
Alors, comment êtes-vous passé de la rébellion du M23, récemment vous étiez dans le M23, au Front commun pour le Congo, dont vous aviez combattu l'autorité morale au moment de cette rébellion?
Je pensais que vous étiez un journaliste qui s'informait bien. Là, malheureusement, je constate que vous n'avez pas été bien informé.
Moi, je suis informé, mais c'est pour les auditeurs qui vous écoutent et qui veulent se situer.
Très bien. Je n'ai jamais été membre du M23, ni dans la structure politique, ni dans la structure militaire. Mais j'ai été invité, comme tant d'autres qui sont ici, pour aller participer au pourparlers de Kampala, apporter mon expertise, mon savoir-faire à ces pourparlers. C'est ainsi que je me suis retrouvé là-bas. Passer du M23, ce qui est déjà un mauvais départ, je n'ai jamais été du M23. Bon, maintenant, au FCC, je me suis retrouvé avec notre parti politique dans la plateforme électorale, l'Alliance des progressistes pour le Congo, APECO, avec l'autorité morale Bruno Tshibala. Et cette alliance a signé son adhésion au FCC. C'est pourquoi je suis au FCC.
De même, on vous a vu très proche des cadres du M23 à l'époque, au moment où la RDC se mettait ensemble et voir dans quelle mesure faire échec à cette rébellion.
Vous savez, si je me souviens bien, Che Guevara, lorsque l'armée bolivienne a découvert la cachette de Che Guevara, trahi par un berger, l'officier qui a arrêté Che Guevara a posé la question au berger. Pourquoi avez-vous dénoncé cet homme qui se bat pour notre liberté et pour notre bien-être? Le berger a répondu. Parce que le crépitement des balles dérange mes moutons. C'est un problème d'intérêt personnel qu'aujourd'hui on peut accuser l'homme qui a sacrifié sa vie pour se battre afin que nous puissions obtenir même les concertations nationales. Parce que à l'époque, le président Joseph Kabila ne voulait même pas parler ni avec Tshisekedi, ni avec un autre opposant. Jean-Pierre Bemba avait fui et il était déjà en prison. C'était, je ne fais pas ici l'apologie de la rébellion, mais c'était grâce à la chute de Goma que le président Kabila s'est mis avec d'autres Congolais ici pour discuter. Je me pose la question, quel peuple nous avons Est-ce que je peux l'identifier à ce berger qui a trahi Che Guevara pour ses intérêts personnels et individuels? J'ai dit tout simplement, Roger Lumbala, je me suis battu pour notre pays. Et aujourd'hui, je continue à me battre pour la République démocratique du Congo. Et je pense qu'un jour, les citoyens congolais reconnaîtront la lutte que j'ai menée.
Avant le M23, vous étiez parmi les acteurs de l'opposition le plus farouche au régime. Et aujourd'hui, vous êtes dans les FCC. Et ne craignez-vous pas que l'opinion vous qualifie d'instable politiquement? Ou alors, quelles sont vos vraies convictions politiques?
Monsieur le journaliste, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a traité le président Joseph Kabila Kabange de tous les maux du monde, aujourd'hui, il est en coalition avec lui. Est-ce que ce n'est pas ça une évolution politique? La politique n'est pas statique, elle est dynamique. Je vous ai donné l'exemple de l'UDPS qui aujourd'hui co-gère le pays dans la coalition FCC-CACH. Avant de vous répondre, c'est ça la réponse que je peux vous donner, au lieu que je puisse, en tant qu'individu, vous donner la réponse pourquoi Roger Lumbala se retrouve au FCC. Pourquoi, alors que l'UDPS, qui a connu l'incendie dans son siège où il y a eu des membres qui ont été incendiés dedans, aujourd'hui est avec le président de la République et vous me posez à moi la question.
Donc finalement, le président Kabila avait toujours eu raison parce que tous ses anciens adversaires l'ont rejoint.
Est-ce que l'objectif est de continuer d'attiser la haine et de créer les animosités dans notre pays? Nous disons que la politique est dynamique. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est président de la République, ce n'est plus Joseph Kabila Kabange. À partir de ce moment-là, moi je remercie et je félicite le président Joseph Kabila Kabange d'avoir posé un acte important en République démocratique du Congo de l'alternance politique de l'opposition. Et je félicite le président Félix Tshisekedi pour avoir compris que ça ne sert à rien de faire de la vengeance. Et c'est ainsi que vous voyez que la coalition va diriger le pays pendant X temps dans la sérénité et la sécurité de tout le monde. C'est ça l'objectif même de la démocratie et c'est ça l'objectif même de la politique. Ce n'est pas de remuer toujours les couteaux dans les plaies, comme vous venez de le faire, monsieur le journaliste. Au lieu de chercher à construire, vous cherchez toujours à détruire et à éloigner des acteurs politiques. Et ça, ce n'est pas correct.
Bon, si nous tombons dans cette divergence, c'est parce que, justement, nous ne comprenons pas quelles sont vos vraies convictions politiques. Parce que si on les connaissait, on comprendrait facilement que les capitalistes sont toujours ensemble avec les libéraux, les socialistes avec les communistes. Mais dites-nous, monsieur Roger Lumbala, quelles sont vos vraies convictions politiques? Quel est l'objet de votre combat politique?
Mon combat politique, c'est le bien-être social des citoyens congolais. C'est ça mon combat politique. Vous savez, moi, je suis issu d'une famille pauvre. Je connais ce que c'est passer la nuit sans manger, revenir à l'école et de ne pas voir que le Makusa a fonctionné. Et j'ai réussi à atteindre le niveau où mes enfants ne manquent pas de lait. À partir de ce moment-là, je vais concilier les deux. C'est pourquoi je pouvais me contenter de ma position sociale actuelle pour rester dans mon camp et continuer à bénéficier comme d'autres Congolais le font. Parce qu'il y a des Congolais qui ne s'occupent pas du peuple, qui s'occupent de leur propre famille, qui ne se battent pas, qui ne prennent pas de risques. Mais voilà l'homme qui prend des risques. Vous lui posez la question, quelles sont ses convictions? Moi, je suis convaincu que le jour où le peuple congolais va bénéficier de son bien-être, je serai tranquille. On ne peut pas vivre heureux seul. C'est ça le principe que j'ai. Quand je vis heureux chez moi, je souhaite que même si mon voisin n'a pas mon niveau, mais qu'il puisse être satisfait dans ses besoins. C'est ça ma lutte première. Conviction politique. Vous savez, je suis de l'école de l'économie sociale de marché. C'est l'économie libérale, bien sûr, avec le social au milieu qui représente l'homme. C'est l'homme qui doit tout réguler. qui doit réguler l'économie et qui doit réguler le marché. On ne peut pas abandonner l'homme devant les loups, parce que vous savez que le patron, c'est un loup, et que s'il n'est pas régulé, il va bouffer l'agneau. J'ai appris l'histoire de l'école primaire, les loups et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais moi, j'ai dit, il faut que les forts puissent défendre les faibles, parce que Dieu a créé, c'est la nature humaine. C'est pourquoi j'ai dit, si dans ces pays, il n'y a pas eu de révolution, Mobutu ne serait pas parti.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit Roger Lumbala, président du parti politique RCDN. Avec lui, nous parlons à présent du message du chef de l'État sur le changement, mais aussi du programme du gouvernement. Monsieur Roger Lumbala, quelle perception faites-vous de la dernière adresse du chef de l'État à la nation congolaise?
Je suis très content parce que le chef de l'État a commencé par dire que son accession au pouvoir a créé l'espoir chez le peuple congolais. Cet espoir pour vivre est très important. Le chef de l'État a pris cet espoir, il a rempli dans l'espoir certaines obligations, changement de mentalité, compétences et autres choses, dans l'espoir, parce qu'il n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout.
Mais il peut commencer à faire la propriété dans sa parcelle, parce que l'affaire de 15 millions de dollars, là, ça le touche à la peau.
Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ces problèmes de 15 millions de dollars américains. Je sais tout simplement que le directeur de cabinet du chef de l'État a stoppé net des enquêtes qui devaient être poursuivies par des inspecteurs. Et au-delà de ça, j'ai lu une déclaration de Georges Kapiamba qui a dit que lui a des éléments, mais il n'a pas mis ces éléments en notre possession ni à la place publique. À partir de ce moment-là, tout homme politique sérieux doit se réserver. Au lieu de faire des déclarations, je pense qu'il faut se réserver. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas faire de déclaration là-dessus.
Le chef de l'État apprenait le changement, mais on sait aussi que son prédécesseur Joseph Kabila regrettait de n'avoir pas été en mesure de changer l'homme zaïrois en congolais. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi parviendra à déboulonner l'ancien système et matérialiser ce vrai changement, alors qu'on sait que toutes les institutions aujourd'hui sont dominées par les cadres du FCC?
Il ne s'agit pas de déboulonner qui que ce soit. Il s'agit tout simplement d'obtenir des citoyens congolais le changement de mentalité. Nous devons nous remettre en cause, à commencer par les animateurs des institutions jusqu'aux cantonniers. Est-ce que quand on fait l'examen de conscience, est-ce qu'on peut se dire qu'on a de bonnes mentalités aujourd'hui dans notre pays? Je ne pense pas. C'est ce que le chef de l'État demande. Et pour l'obtenir, moi je pense qu'il faut aussi que nous puissions évoluer sur le plan social et économique. Un homme ne peut pas changer, un homme ne peut pas rester honnête à partir du moment où il n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois à la maison. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voler, il va aller tricher et il sera malhonnête. Pour que nous puissions avoir réellement les changements de mentalité, il faut que le Premier ministre Ilunga Ilukamba, qui doit mettre cette déclaration politique du président de la République en application, il doit avoir un budget important, et ce budget-là va permettre à ce que nous puissions nous occuper de l'enseignement de base, nous puissions nous occuper de la santé, nous puissions nous occuper des salaires des gens, des salaires décents. Nous devons nous occuper de créer des emplois qui peuvent permettre aux chefs de famille de pouvoir restaurer leur autorité parentale. Il nous faut beaucoup de choses. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas un slogan que le chef de l'État a lancé, c'est demande qui peut être matérialisée par le Premier ministre Ilunga Ilukamba, à condition qu'on lui donne le moyen de sa politique.
Justement, le programme du gouvernement Ilunga-Ilunkamba-Sylvestre a été approuvé à la majorité écrasante des députés nationaux. Quelle analyse faites-vous de ce programme? Est-ce qu'il rencontre réellement les attentes de la population?
Le programme du professeur Ilunga, ce n'est pas son programme à lui. C'est le programme de la coalition FCC-CACH qu'on lui a donné pour piloter. Bon, maintenant, va-t-il le réaliser? Moi, j'ai des doutes qu'il réalise ce programme s'il n'a que ce budget-là de 6 ou 7 milliards de dollars américains. Il va faire comme ses prédécesseurs, Matata Ponyo, Sami Badibanga, Bruno Tshibala, n'ont pas pu réaliser leur programme tout simplement parce que le budget ne permettait pas. Si aujourd'hui Ilunga Ilunkamba rencontre les mêmes difficultés de budget, il ne fera absolument rien. Il n'y aura pas de changement de mentalité voulu par le chef de l'État.
Dans quelle mesure l'exécution du programme du gouvernement Ilunga apportera réellement les changements et l'amélioration des vies, des conditions de la population? Parce que vous parlez tout à l'heure d'un budget de 6 milliards, 7 milliards de dollars ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour que ce programme soit bien piloté?
Mais c'est pourquoi c'est que je voulais vous démontrer qu'avec un budget comme celui-là, le professeur Ilunga, qui affiche la bonne volonté sur son visage de pouvoir servir le pays, s'il n'a pas les moyens de sa politique, il ne fera absolument rien. Moi, je le soutiens en proposant à ce qu'il puisse avoir un budget conséquent qui peut lui permettre de réaliser ce qu'il a déclaré à la République à travers la représentation nationale.
Et c'est quoi le budget conséquent?
Le budget conséquent, aujourd'hui, s'il a 20 milliards de dollars américains, il peut travailler. S'il a 30 milliards, il peut travailler. On ne peut pas continuer à maintenir le Congo dans la pauvreté avec le budget de misère. 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, même 10 milliards, c'est un budget de misère. Je vous donnerai un exemple aujourd'hui. Nous avons la République du Rwanda qui a 22 000 kilomètres carrés. C'est une république trop petite qui n'arrive à entrer dans les territoires de Walikale et qui fait 41 000 kilomètres carrés. Et cette république a la moitié de notre budget. 3 milliards de dollars américains. Alors que le territoire de Walikale n'a même pas 100 millions de dollars américains pour le développement du territoire. Comment pouvons-nous prétendre changer la mentalité des gens? Comment pouvons-nous prétendre changer les choses en République démocratique du Congo? C'est pourquoi j'insiste et je dis, tant que nous aurons un budget de misère, les choses ne vont pas changer dans notre pays. Il n'y aura que des responsables politiques qui verront leur vie changer. Parce que ça, on voit des députés qui viennent dans leur terroir, qui sont maigres, ils grossissent. Il y a des ministres qui viennent et qui achètent des voitures. Il y a des premiers ministres qui achètent des maisons. Donc l'enrichissement ne sera qu'au niveau des animateurs des institutions.
Vous nous avez rejoint en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le président national du RCDN, M. Roger Lumbala. Avec lui, nous parlons à présent de la mobilisation de fonds pour multiplier le budget national. Que préconisez-vous, M. Roger Lumbala, pour que le gouvernement congolais parvienne à présenter dans quelques jours au Parlement un budget capable de faire face aux problèmes que connaît la RDC?
Il faut que le budget de la République démocratique du Congo reflète la volonté exprimée du président de la République de changement de mentalité dans notre pays. Avec un budget de 7 milliards, les choses ne vont pas changer. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, la corruption est endémique dans notre pays et nous n'arrivons pas à mobiliser toutes les recettes au trésor public. C'est pourquoi nous disons, la première des choses, c'est la justice. Tant que la justice ne va pas fonctionner pour contraindre les corrompus et les corrupteurs, la situation ne va pas s'améliorer. Et aussi, Nous disons que il y a des pistes que nous avons dégagées ici, des transferts des eaux dans le lac Tchad et aussi de l'exploitation de notre tourbière et de l'eau pour permettre à ce que nous puissions avoir des revenus conséquents. C'est pourquoi nous nous disons, la mobilisation des recettes telle que nous l'avons aujourd'hui, je déplore que les responsables de dépenses de l'observatoire de dépenses publiques disent que c'est la mobilisation maximale. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Il appartient au chef de l'État de réunir des Congolais pour poser la question où est-ce que nous pouvons trouver de l'argent pour avoir un budget conséquent. Si on ne le fait pas et qu'on s'enferme dans le carcan de dire que nous sommes l'exécutif, nous avons le monopole de trouver des moyens de l'État, ils vont se buter encore et ça sera difficile pour le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui sera sacrifié. C'est pourquoi nous, le SDN, nous allons nous battre par des marches ou par des mobilisations de la presse pour dire que, à partir du moment où nous avons la possibilité d'avoir des moyens pour notre budget, nous devons avoir cela. Nous devons avoir ces moyens-là.
Vos propositions semblent assez faciles. Hein? 21 milliards de dollars qui nous attendent par le fait seulement de posséder notre forêt équatoriale. 62 milliards de dollars nous attendent tout simplement parce que si on accepte de transférer les eaux du fleuve Congo vers le lac Tchad, on va les avoir. Mais curieusement, on ne le fait pas. Est-ce que vous avez évalué les contraintes qu'il y a pour y parvenir? Je donne un exemple. Transférer les eaux de la rivière Ubangi vers le lac Tchad, c'est sacrifier le grand Inga.
Non, c'est que vous ne connaissez pas les dossiers. Le dossier a déjà évolué. L'eau doit être transférée à partir de l'embouchure du fleuve Congo, au moment où l'eau va se jeter dans les eaux internationales, au moment où nous n'aurons plus le contrôle sur ces eaux-là. C'est là qu'il faut capter l'eau et transférer ça au lac Tchad. Et au moment où je parle avec vous, vous savez combien de mètres cubes se jettent dans l'océan. C'est là qu'il faut prendre. Ce n'est pas... Le dossier a déjà évolué. Ce n'est plus du côté de la rivière Ubangi. Ça, c'était déjà même à l'époque de Mobutu. Vous savez que l'Israël voulait prendre de l'eau à partir de la rivière Ubangi pour amener jusque là-bas chez eux. Et ils avaient le pipeline qu'ils ont baptisé le pipeline Salomon. Ce dossier-là est déjà clos. Maintenant, c'est à partir de l'embouchure du fleuve Congo. Et je me pose la question de savoir pourquoi nous perdons du temps, parce que l'eau se jette au moment où l'on parle ici dans les eaux internationales.
Je me demande aussi techniquement, est-ce que pour arriver à transférer avec cette distance de l'embouchure au lac Tchad, ça ne risque pas de nous demander des infrastructures qui nous coûteraient plus cher que ces 60
000 euros? Non, ce n'est pas le travail de la République démocratique du Congo. C'est le travail qui sera fait par la BAD, la Banque africaine de développement, qui sollicite et qui dit que je veux acheter 100 milliards de mètres cubes par an. Les 100 milliards, il va donner 1 dollar par mètre cube, ce qui nous fera 100 milliards de dollars américains par an. Et ils vont le faire comment? Avec l'aide de tous les pays qui souhaitent avoir cette eau. Parce que vous savez, il y a le phénomène d'Mbororo qui est au nord, est de notre pays. Les Mbororo sont des Tchadiens qui quittent chez eux parce qu'ils n'ont plus de pâturage. Ils viennent avec leur cheptel pour venir les nourrir dans notre pays. Et imaginez-vous que nous avons le pays de bassin du lac Tchad, à peu près 6 à 7 pays. Si ces gens-là qui vivent du lac Tchad, et que le lac Tchad sèche, parce que en 1960, le lac Tchad avait une superficie de 23 000 km². Au moment où je vous parle, le lac Tchad a 2000 km² de superficie, donc moins de 10%. Après 10 ans, peut-être, le lac Tchad va sécher. Vous pensez qu'ils vont rester chez eux là à mourir Non, ils vont venir là où se trouve de l'eau douce pour venir chercher l'eau. C'est en République démocratique du Congo et ils viendront. Ils ne viendront pas comme ça, ils viendront avec les armes. C'est pourquoi la politique, c'est quoi? C'est l'art d'anticiper. Moi, j'ai dit, anticipons tout en bénéficiant de cet argent-là. Et ça va soulager la misère de notre peuple. Non seulement cette eau-là, ce n'est pas seulement pour le lac Tchad, c'est aussi pour le désert. Et vous savez que les États-Unis sont fortement intéressés parce que lorsque le pipeline qui va prendre de l'eau à partir de l'embouchure du fleuve Congo pour amener jusqu'au lac Tchad va laisser au cours de son passage de l'eau dans la sécheresse, ce qui va permettre à ce que l'on constitue une petite forêt dans ce désert, et ça va empêcher les ouragans qui se développent aux États-Unis d'Amérique, qui ont leur origine à partir d'Afrique. Donc, les États-Unis sont fortement intéressés. Je suis convaincu, quand nous allons nous mettre dans la lutte pour ces transferts, nous aurons le soutien des États-Unis d'Amérique et de tous les autres pays, parce que nous devons absolument arriver à être solidaires avec le peuple africain.
Et quelles sont les conditions pour obtenir alors le 21 milliards de dollars du crédit carbone, parce que nous avons déjà notre forêt? Qu'est-ce qui nous manque pour avoir cet argent?
Ce qui nous manque, c'est l'interdiction de l'exploitation de bois. Ce qui est bizarre, alors qu'il y a 21 milliards de dollars américains qui nous attendent. Avec pour condition, il ne faut pas exploiter, il ne faut pas couper le bois. Mais on donne l'exploitation de notre forêt aux Chinois. Les Chinois sont en train de ravager la forêt dans notre pays. Qui profite les crimes? À qui profite les crimes? C'est là que le peuple congolais doit s'élever. Quand on dit que chaque peuple mérite ses dirigeants, mais cette fois-ci, nous devons dire, le peuple doit s'élever pour se poser la question, pourquoi on ne va pas chercher le 21 milliards et qui nous empêche d'avoir le 21 milliards en envoyant des Chinois aller couper les arbres dans notre forêt?
La toute dernière question, M. Roger Lumbala. Finalement, que nous faudra-t-il pour voir la RDC enfin décoller dans l'unité et l'amour de la patrie? Parce que, à entendre tout ce que vous dites, nous avons tout pour décoller. Vous n'avez pas touché les questions des minerais, de l'agriculture. Juste avec l'eau et la forêt, on peut avoir jusqu'à 80 milliards de dollars, mais nous avons toujours un budget de moins de 10 milliards.
Ce qu'il nous faut, c'est la volonté telle que l'a affichée le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il ne faut pas que nous puissions revivre ce que nous avons connu autrefois avec le professeur Luzolo Bambi. On lui a confié une tâche, il a fait son travail, mais on l'a empêché de faire réellement son travail. Si le président Félix Tshisekedi évite d'interférer dans la justice, je pense que ça sera déjà un début de la réalisation de tous les objectifs. C'est ça notre souhait.
Monsieur Roger Lumbala, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été préparée avec le concours de Kelly Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.